France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 15 février. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la jeunesse qui se met en marche pour sauver le climat. Le mouvement des grèves scolaires initié un peu partout en Europe démarre aujourd'hui en France. On voit ça en détail, Laurence, après les autres titres.
L'aide-soignant de la maison de retraite d'Arcueil, soupçonnée de violence envers une résidente, sera jugée aujourd'hui en comparution immédiate. La famille avait installé une caméra dans la chambre, un procédé qui pose question pour certains. Autre procès aujourd'hui, celui d'Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, poursuivi pour organisation de manifestations sans autorisation. À l'étranger, l'enquête qui fait trembler le Vatican, Sodoma ou la culture du secret sur l'homosexualité au plus haut sommet de l'Église catholique.
Et puis les invités de France Inter, ce matin à 7h50, l'historienne, la grande historienne, spécialiste de la Révolution française, Mona Ozouf, sera au micro d'Ali Badou à 8h20, sur l'affaire de la Ligue du LOL, sur le procès Baupin, le regard et l'analyse de la philosophe de la pensée féministe Geneviève Fraisse, invitée du grand entretien tout à l'heure. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Au sommet de la Terre, à Rio, en 1992, Jacques-Yves Cousteau lançait la pétition pour les générations futures. Déçu, lassé d'assister à la lenteur des décisions politiques en faveur de l'environnement, cette génération future sera dans la rue aujourd'hui pour la première fois en France. Ils sont jeunes, lycéens, étudiants. À l'heure de l'accélération du changement climatique, ils se mobilisent au chevet de l'environnement et vont sécher les cours pour manifester à partir de 14h30 devant le ministère de la Transition écologique et suivre ainsi l'exemple des jeunes belges, allemands, australiens qui chaque semaine alertent désormais les dirigeants sur l'urgence d'agir. Le coup d'envoi de cette mobilisation avait été donné par la petite suédoise Greta Thunberg. Il s'agit de préparer la grève mondiale de la jeunesse pour le climat qui aura lieu le 15 mars prochain. Célia Kiré.
Veste grise, écharpe bleue, allure sobre et ton très sérieux. Martial Breton n'ira pas en cours aujourd'hui. Cet étudiant en agronomie à Paris, passionné de biodiversité, estime qu'il n'a pas le choix. Les jeunes doivent se mobiliser.
On fait partie de cette génération climat qui, aujourd'hui, est née dans un contexte de crise écologique, crise climatique, crise sociale, très dure. Aujourd'hui, la priorité, c'est de, malheureusement, de se battre pour notre avenir. Et peut-être qu'on pourra reprendre les études, on pourra reprendre le cours normal de notre vie si plus tard notre avenir est garanti.
Cet étudiant n'est ni dans un parti ni dans un syndicat, c'est un militant associatif. Il en veut au gouvernement qui privilégie toujours, selon lui, l'économie au détriment de l'écologie. Pour lui, il faut inverser les priorités, c'est du pragmatisme.
C'est plus des discours de hippies des années 70 qui courent nus dans les champs. Aujourd'hui, c'est des discours de réalité. Ce système économique n'est pas compatible, en tout cas avec une société en équilibre avec son environnement. Et il faut le changer absolument.
Depuis quelques jours, des actions commencent à émerger timidement dans une quarantaine de villes. Ces jeunes mobilisés ont commencé à prendre contact avec les syndicats d'étudiants et de lycéens, sans oublier les enseignants. Il leur reste un mois pour convaincre avant la grève du 15 mars.
7h03, comment protéger, Laurence, les personnes âgées en EHPAD?
La question peut se poser au regard de ce qui s'est passé à Arcueil, en région parisienne. L'aide-soignant de 57 ans a reconnu avoir maltraité physiquement et verbalement une dame de 98 ans. Il sera jugé en comparution immédiate cet après-midi. La famille de la pensionnaire soupçonnait depuis longtemps des maltraitances. Elle s'en était ouverte à la direction et n'avait pas donné suite. Les enfants ont alors décidé d'installer une caméra dans la chambre de leur mère, ont filmé l'impensable et déposé plainte il y a une semaine. Mais la méthode interroge certains professionnels, Mathilde Dehimy.
Il ne blâme pas la famille, condamne fermement les maltraitances de l'aide-soignant, mais s'interroge sur la méthode employée, car filmer dans la chambre d'un résident n'est pas anodin pour Jean-Pierre Roulin, qui dirige 3 EHPAD publics dans l'Essonne.
Un tel dispositif de surveillance enfreint un certain nombre de règles, et notamment le droit à l'image pour toutes les personnes qui sont susceptibles de pénétrer dans la chambre, les professionnels qui n'ont pas à être filmés à leur insu. C'est quand même quelque chose qui pourrait devenir préoccupant si ce genre de pratique se généralisait.
Se pose la question de considérer la chambre comme un lieu privatif mis à disposition par l'EHPAD qui dispose de son propre règlement ou comme un domicile, Thierry Amouroux du syndicat national professionnel infirmier.
Le pensionnaire d'un EHPAD est résident dans une chambre, donc c'est comme si c'était son domicile personnel. La grande majorité des soignants font de leur mieux, ils sont porteurs de valeurs, donc ça ne pose aucun problème. Il fallait avoir une preuve, ils l'ont eu de cette manière.
La CNIL rappelle qu'à domicile, toute personne y travaillant, la nounou ou du personnel médical doit être informée de la présence d'une caméra. En cas de suspicion de maltraitance dans un EHPAD, la famille peut aussi informer le conseil départemental et l'autorité régionale de santé.
Mathilde Dehimy, une figure du mouvement des Gilets jaunes au tribunal ce matin. Éric Drouet est jugé à Paris pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Le chauffeur de Seine-et-Marne est l'un des initiateurs de la première mobilisation nationale des Gilets jaunes le 17 novembre. Il est devenu l'un des visages les plus connus du mouvement qui dure maintenant depuis 3 mois. Éric Drouet a été interpellé le 2 janvier avec plusieurs amis près des Champs-Élysées et il est jugé par le tribunal correctionnel de Paris à un moment où les leaders historiques des Gilets jaunes semblent en perte de vitesse, Béatrice Duguay.
Il y a manifestement chez Éric Drouet une petite lassitude de la démocratie frontale. Dans un message Facebook posté dimanche, il exprime son dépit face aux critiques incessantes de ceux qui le suivent sur le réseau social. « Tu te mets en quatre, tu dors pas, t'es un mort-vivant à la maison, il y en a encore qui sont pas contents », écrit-il. Dans le cortège parisien, il est passé au second plan, derrière Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil. Ses idées de nouveaux modes d'action sont boudées, sauf peut-être celle de manifester le dimanche et plus le samedi. Éric Drouet relaie également un lien vers le site Le Référendum où les internautes voteraient pour la destitution du président de la République. Maxime Nicole fait la même chose, lui qui n'a pas quitté la France, lui dont la mobilisation le week-end dernier à la frontière italienne a échoué, lui qui vient de porter plainte pour menace et entrave à la liberté de manifester. Priscilla Ludowski, elle, s'active différemment, plus proche du terrain. C'est bien beau de bloquer, dit-elle à la Dépêche du Midi cette semaine, mais il y a une partie éducation et explication à fournir. Du coup, elle débattra avec le créateur du RIC à Castres samedi et elle partage en ligne un échange invérifiable avec des black blocs qui justifient la casse comme mode d'action.
Béatrice Duguay, le suspense n'aura pas duré longtemps. Quelques heures après les adieux émus d'Alain Juppé à sa mairie de Bordeaux, la majorité municipale a désigné son adjoint aux finances, Nicolas Florian, pour lui succéder. Quant à l'éphémère numéro 2 des Républicains et dauphine bordelaise, un temps pressenti, Virginie Calmels annonce qu'elle part dans le privé diriger un grand groupe français.
Quand un journaliste, il est 7h07 et sociologue français se plonge dans le secret le mieux gardé du Vatican.
Le résultat s'appelle Sodoma, un livre de 600 pages sur l'homosexualité dans l'Église catholique. Une enquête explosive sur l'omniprésence de prélats gays au sommet de l'Église. Frédéric Martel entend mettre au jour tout un système et non pas un lobby gay, mais presque une normalité. Comment réagit-on à Rome ? Correspondance de Mathilde Imberti.
Il n'y a pas de riposte en préparation au Vatican, pas de démenti ni de communiqué sur le point de sortir selon nos informations. Et le pape François, d'après une source très proche de lui, ne lira pas le livre. Du reste, en off au Vatican, on confesse avoir d'autres priorités, au premier rang desquelles la préparation du sommet sur les abus qui débute jeudi prochain. Naturellement, la sortie du livre de Frédéric Martel, précisément le jour de l'ouverture de ce sommet, fait du bruit à Rome. Au terme d'une enquête de 4 ans au Vatican et dans plusieurs pays, le journaliste qui a interrogé 1500 ecclésiastiques en conclut que l'homosexualité est omniprésente au plus haut niveau hiérarchique et qu'elle détermine une culture du secret dans l'Église. Selon Frédéric Martel, des évêques ont ainsi pu couvrir les abus perpétrés par leurs prêtres pour éviter d'être eux-mêmes démasqués en tant qu'homosexuels. Le journaliste a choisi de ne pas citer le nom des personnes concernées au Vatican quand elles sont vivantes, une prudence qui rend l'ouvrage difficilement attaquable sur le plan judiciaire, reconnaît-on encore dans l'entourage du pape. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Aux États-Unis, il n'y aura pas de nouveau shutdown. Les élus du Congrès ont trouvé un accord budgétaire pour éviter une nouvelle paralysie de l'administration américaine et Donald Trump a décidé de ne pas s'y opposer. Du coup, Trump choisit la confrontation et va déclarer l'urgence nationale, une loi de 1976 pour activer les pleins pouvoirs au président. Il va ainsi pouvoir envoyer à la frontière mexicaine près de 4500 militaires. Le géant Amazon jette l'éponge. Face à l'hostilité de nombreux élus locaux, le géant de la vente en ligne ne construira pas de nouveaux sièges à New York dans le quartier du Queens. Les opposants au projet dénonçaient pêle-mêle les quelques 3 milliards d'avantages fiscaux promis à l'entreprise, une gentrification accélérée prévisible du quartier ou encore la saturation du métro dans le quartier concerné car Amazon prévoyait d'embaucher 25 000 personnes. La 380 restera sans doute l'un des plus gros échecs de l'histoire aéronautique. Trop coûteux, trop gros, investissement trop risqué pour les compagnies aériennes. L'avion de 850 places, pourtant le préféré des passagers, ne sera plus construit d'ici à 2 ans. La fin d'un rêve européen pour Airbus face au principe de réalité. Carnet de commandes insuffisant, dernière déception en date. Emirates qui a annulé 39 commandes sur 53. Impossible de continuer ainsi. Atterrissage forcé aussi pour les salariés, et notamment à Nantes, où sont produites des pièces de l'A380. Le site avait déjà réduit la voilure ces derniers mois. Reportage de Willy Moreau de France Bleu Loire-Océan.
L'immense atelier est déjà beaucoup plus calme depuis quelques mois. La production a été réduite par 7 ces dernières années. Ici, on construit le caisson central de voilure. C'est la pièce où sont rattachées les ailes de l'A380.
Le plus gros avion commercial du monde. C'est un peu le bébé.
Ça fait 8 ans que Jackie colle les pièces, perce et serre les boulons.
On est un peu déçu quand même parce qu'en plus on avait une bonne équipe. Voilà, on s'attendait un petit peu à des baisses de cadence peut-être, à une suspension du programme, mais pas à la fin du programme quoi. Mais on n'est pas perdu.
Puisque Jackie et la centaine de salariés à Nantes qui travaillent sur la 380 seront rattachés bientôt à d'autres modèles d'Airbus. Comme les pièces ici sont produites un an et demi avant la livraison de l'avion.
Ça veut dire que cette année, on arrête le 380 concrètement dans l'usine de Nantes.
On arrête d'en construire, oui, mais pas d'en réparer, insiste Aurélien Trichet. C'est le responsable de la ligne de production.
Il faut savoir qu'on a une activité de SAV, de rechange, pour des avions qui vont être en service pendant encore 30 ans. Voilà, le 380 s'arrête, mais en service, il a une vie encore longue.
Pour le moment, l'atelier reste en l'état jusqu'en 2021, jusqu'à la livraison du dernier A380.
Il n'a que 24 ans et joue du violoncelle depuis l'âge de 4 ans. Un virtuose qui fait de lui une référence dans la musique classique. Et à ce joli pedigree vient s'ajouter de l'audace. Edgar Moreau vient d'oser marier Offenbach et Gulda, deux concertos un peu fous, écrits à 130 années d'écart. Le concerto militaire d'Offenbach et celui d'un compositeur plus méconnu, l'Autrichien Friedrich Gulda, décédé en 2000. Une personnalité qui dénotait d'ailleurs dans le milieu du classique, car il mettait dans ses partitions de la guitare électrique. Stéphane Capron.
Friedrich Gulda était une personnalité peu banale. Pianiste d'exception, spécialiste de Beethoven, il proposait des mélanges incongrus dans ses concerts, souvent entrecoupés de morceaux de jazz de sa composition. C'est le cas de ce concerto. Edgar Moreau est entouré pour l'occasion d'un brass band, d'une batterie, d'une basse, un concerto éclectique et loufoque à l'image de Gulda.
C'était un immense chef d'orchestre, c'était un immense pianiste, puis c'était un immense pédagogue. C'était, je pense, quelqu'un qui était un peu étrange, mais dans le bon sens du terme. Et son concerto est vachement intéressant parce qu'en fait, il est composé en 5 mouvements et chaque mouvement est très différent l'un de l'autre. Le premier, c'est carrément du rock. Le deuxième, il y a des influences de musique traditionnelle. Le troisième, c'est une cadence de musique du 20e siècle presque contemporaine. Le quatrième, on est carrément dans de la musique baroque. Et puis le final, c'est de la fanfare. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement éclectique et de très drôle en fait.
Le final du concerto est une marche où les cuivres s'en donnent à cœur joie, obligeant le violoncelle à peser de tout son poids. On mesure alors toute la virtuosité d'Edgar Moreau.
Edgar Moreau, très drôle, très original.
Merci Laurence Thomas.